Merci, Yann, pour ton accueil, ta bienveillance. Merci. Écoute, peut-être on va faire un peu de place là. C'est très bien. Bonjour, chers amis. Ça me fait vraiment beaucoup de plaisir, ça nous fait beaucoup de plaisir d'être au milieu de vous ce matin. Je suis content de vous revoir. Et là, ce mot « revoir » pour une fois a un sens pas simplement symbolique et fraternel, il a un sens très concret, puisque j'ai des yeux tout neufs. Et puis voilà, alors ça c'est un peu compliqué, vous allez me voir jongler avec mes lunettes, parce que comme je viens d'être opéré, évidemment ma vue n'est pas bien adaptée. Et d'autant plus que là, c'est des lunettes qui datent d'il y a 30 ans en arrière, parce que j'ai cassé les autres en chutant en montagne il y a 15 jours, 3 semaines. Donc, voilà, vous ne m'en voudrez pas si vous me voyez chercher un meilleur angle de vue. Mais ça fait plaisir de se revoir et de pouvoir échanger ensemble autour de ce que Dieu veut nous donner de vivre et de partager. Alors, le thème de ma prédication ce matin, c'est celui du Notre Père, que j'ai intitulé « Notre Père, un style de vie ». Et plus précisément, nous méditerons sur la deuxième requête, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Mais je vous lirai le texte, je vais vous lire le texte dans sa globalité. « Voici comment vous devez prier, nous dit Jésus. » Et là, c'est lui-même qui continue en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal ou du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Plus je médite cette parole, cette prière, plus je la trouve d'une richesse absolument prodigieuse. Nous l'avions abordée au mois d'août. Au mois d'août, j'étais venu pour méditer avec vous les premières phrases de cette parole. J'ai encore quelques résumés, si vous désirez, je vous les offrirai volontiers à la sortie. Et au mois d'août, j'ai repéré que cette prière, bien plus qu'une formule à réciter, est vraiment un art de vivre. C'est un art de vivre que de découvrir combien Dieu est un Père qui désire développer avec nous des relations d'appartenance, notre Père. Et pourtant, ce Père est au ciel. Et là, nous avons médité au mois d'août le paradoxe entre ces deux expressions. Il est au ciel pour respecter notre responsabilité et notre liberté. Et ce mot « que ton nom soit sanctifié », nous avons compris que c'était plus un geste d'adoration. C'est vrai qu'il n'y a pas de formule d'adoration proprement parlée dans cette prière. Je crois que c'est cette formule-là, cette expression-là qui est vraiment notre manière d'adorer Dieu. Alors aujourd'hui, tu peux mettre le diable. Aujourd'hui, nous poursuivons. C'est la deuxième séquence, nous poursuivons, que ton règne vienne. Et là, je vous proposerai un survol de l'Apocalypse, enfin de l'apôtre Paul et de Jésus, pour essayer de comprendre le sens de cette expression. Et là, vous verrez que pour moi, j'ai découvert, enfin, que ton règne vienne, c'est à la fois une prière, mais à la fois un engagement. Ensuite, on va esquisser et réfléchir à des situations qui expriment, ce que j'ai appelé des dérapages vis-à-vis de la notion du règne. Puis, nous réfléchirons à cette deuxième expression, que ta volonté soit faite, qui est à la fois un désir universel que nous partageons avec tous nos semblables, et puis, peut-être pour nous, d'une manière plus intime, une prière de consentement. Et ma conclusion, que vous ne trouverez pas sur le résumé parce qu'elle m'est venue ce matin tôt, ma conclusion, par cette prière, Dieu nous associe à son œuvre, ce que je trouve absolument magnifique. Voilà, c'est mon résumé, tu peux laisser tomber, allons de l'avant. Que ton règne vienne. Alors, pour se comprendre, ça vaudrait la peine de s'interroger les uns les autres et de faire un micro-trottoir. Comment est-ce que vous vous représentez le royaume de Dieu? Qu'est-ce que le royaume de Dieu pour vous, pour moi? Voilà. Et il peut y avoir différentes réponses à cela, mais c'est sur ces réponses qu'on va s'accrocher pour poursuivre notre réflexion. Alors, dans le Nouveau Testament, je trouve en fait trois familles de textes qui nous parlent du royaume de Dieu. Et la première famille, c'est l'Apocalypse. Je lis Apocalypse 11. Le septième ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. » Et les 90 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et adorèrent Dieu, en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, car tu as saisi ta grande puissance, tu as pris possession de ton règne. » C'était Apocalypse 11. Apocalypse 21 donne une réponse à la question que je posais, de la manière de nous représenter le royaume de Dieu. Et c'est certainement une réponse que vous avez beaucoup entendu monter dans votre cœur. « Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, plus de cris, plus de douleur, car les premières choses ont disparu. » Voilà ce que nous dit l'Apocalypse. Et pour moi, ce qui me paraît fondamental, c'est cette expression « Tu as saisi ta grande puissance, tu as pris possession de ton règne. » Donc il s'agit bien d'une vision que Jean, le visionnaire de Patmos, une vision que Jean a eue, qui est une révélation d'un événement qui est à venir. On le dit, hein, il ne faut pas placer l'Apocalypse uniquement dans l'avenir. L'Apocalypse traite aussi bien du passé, du présent que de l'avenir. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment une vision d'avenir, parce que c'est intéressant de repérer que l'identité du Seigneur dont on parle, c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est et qui était. Et l'expression qui vient a disparu au verset 17 d'Apocalypse 11. Donc on est vraiment dans la réalisation de quelque chose. Et cette réalisation, je la répète, tu as saisi ta grande puissance, tu as instauré ton règne. Il y a un événement qui se passe, un événement qui marque l'achèvement de l'histoire du salut. Dieu entre pleinement dans la possession de son règne. Et cela, il faut sans cesse se le rappeler, parce que lorsque l'on regarde ce que nous vivons à l'heure actuelle, nous n'avons pas du tout cette représentation-là, nous n'avons pas du tout cette image-là. On a au contraire l'impression que c'est la pagaille, que plus rien ne va. On entend parler de guerre, de bruit de guerre, de pollution, de fin du monde, de souffrance. Et on se dit, mais enfin, Dieu, où es-tu? Où es-tu? Est-ce que tu es vraiment aux commandes? Est-ce que tu es vraiment ce Seigneur Tout-Puissant que nous célébrons dimanche après dimanche, et plus que ça, j'allais dire, tous les matins au cœur de nos vies? Eh bien, je crois que c'est important de comprendre ce contraste. Et c'est important de comprendre ce paradoxe, parce que si nous ne le comprenons pas, si nous ne voyons pas qu'il est inscrit dans la Bible, cela pourrait nous décourager. Et c'est vrai que j'ai des connaissances, j'ai des amis qui ont quitté la foi parce qu'ils ont dit « Mais écoutez, Dieu me promet des choses extraordinaires, il ne les tient pas, tout ce que je vois autour de moi, c'est complètement misérable. Donc pourquoi croire à un Dieu pareil ?» Donc ces gens, au nom de ce rêve de perfection, ont tourné le dos à la foi, sans réaliser qu'en fait, ce paradoxe, il est inscrit dans la Bible. Et de savoir qu'il est inscrit dans la Bible, pour moi, ça me rassure, enfin, ça me donne un fondement, un enracinement qui permet de nourrir ma foi. Alors, où est-il inscrit dans la Bible? Eh bien, dans Romains. Romains, chapitre 8, verset 25, vous trouverez tout cela dans mon résumé. L'apôtre Paul dit cette phrase extraordinaire, « Nous espérons des choses que nous ne voyons pas. » Nous attendons avec espérance. Et puis, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit exactement la même chose. Il célèbre la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Et puis il dit, mais Seigneur, tu as tout mis sous les pieds du Christ, Hébreux 2. Tu lui as soumis toutes choses. Tu n'as rien laissé qui ne lui soit soumis. C'est beau, hein, comme affirmation. Je continue. Maintenant, certes, nous ne le voyons pas encore. Et ça, c'est capital. Il faut sentir cette tension. C'est tout le paradoxe que les chrétiens sont appelés à expérimenter au cœur de leur existence. Les théologiens en parlaient du déjà et du pas encore du royaume. Le royaume est déjà là, mais il n'est pas encore pleinement manifesté. Et si nous intégrons cette tension, nous allons beaucoup mieux pouvoir vivre nos pépins, nos chutes en montagne, nos lunettes qui se cassent, pour parler de peccadilles tout à fait secondaires, mais nos maladies graves, pour penser à ceux qui sont touchés par des maladies beaucoup plus importantes. Eh bien, nous comprenons mieux, si nous intégrons la notion théologique de cette tension, nous comprenons mieux combien Jésus est là, il est présent dans la gloire, mais une gloire qui n'est pas pleinement dévoilée, pas pleinement déroulée, qui est comme encore concentrée au sein de sa personne. Et là, j'évoque la théorie du Tzimtzum, qui est une pensée chère à nos amis juifs, qui disent que pour la création, Dieu s'est comme concentré en lui-même, il s'est comme retiré pour donner place à la création du monde, donner place à l'être humain, à sa responsabilité, à sa liberté. Mais viendra le temps où Dieu reprendra pleine possession de ce dont il s'est retiré. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, nous ne voyons que par la foi la puissance de Dieu. Et le jour viendra où cette puissance sera pleinement révélée lorsque Dieu sera tout en tous. Ça, c'est la représentation de l'Apocalypse. La deuxième représentation, c'est celle de l'apôtre Paul. Et là, je suis dans l'épître aux Romains. Et l'épître aux Romains, au chapitre 14 en particulier, Paul a le souci de l'Église, de l'unité de l'Église, et il exhorte ses lecteurs à travailler à cette unité. Et en fait, Paul se dit, mais qu'est-ce qui peut bien diviser l'Église ? Et il dit, ce qui pourrait diminuer l'Église, c'est deux choses, dit-il dans ce chapitre aux Romains, chapitre 14. Il dit, ça pourrait être les discriminations, ou ça pourrait être le développement d'opinions particulières en ce qui concerne la liturgie, la bonne manière de servir Dieu. Alors, je vous lis le texte. « Accueillez celui qui est faible dans la foi. » Sans discrimination d'opinion. Tel a la foi pour manger de tout, tel autre est faible, ne mange que des légumes. Celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, etc. etc. Donc voyez, c'est vraiment le souci de l'apôtre Paul de travailler à l'unité de l'Église. Et l'argument ultime de Paul est absolument magnifique. L'argument ultime, c'est celui-ci, le royaume de Dieu. N'est pas une affaire de nourriture ou de boisson. Le royaume de Dieu consiste en la justice, la paix et la joie que donne le Saint-Esprit. C'est magistral, cette expression. Vous voyez, après avoir débattu sur ce qui fait les défis des conflits de l'Église, Paul dit, mais laissez tout ça de côté, s'il vous plaît. Tout est secondaire, vos opinions sur les jours, il y a des jours saints, des jours sacrés, des jours pas sacrés, il y a de la nourriture à prendre et de la nourriture à pas prendre, etc., etc. Toutes vos opinions, vous pouvez les laisser de côté, parce que l'essentiel, le cœur, le fondement de toute votre identité chrétienne, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors, c'est le deuxième éclairage du royaume de Dieu. Et il le dira aussi dans d'autres textes, la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Donc, c'est le deuxième éclairage. Le royaume de Dieu n'est pas simplement un événement cosmique qui est placé dans l'horizon de l'histoire. Le royaume de Dieu, c'est une attitude dans laquelle je veux inscrire mon existence ici et maintenant. À chaque moment, à chaque minute de ma vie. Si je décide d'inscrire mon existence dans des relations empreintes de justice, empreintes de paix, empreintes de joie, eh bien, je suis dans le royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu est un choix éthique. Le royaume de Dieu est un choix de vie auquel je suis invité à accéder dès aujourd'hui. C'est la deuxième représentation. La troisième, c'est les paroles de Jésus. Vous allez dire, mais pourquoi est-ce que j'ai mis les paroles de Jésus en troisième position ? Ben, c'est tout simple, c'est parce que comme Jésus est à la source de tout, bien sûr, j'ai trouvé dans les paroles de Jésus à la fois les deux premières représentations. Par exemple, quand Jésus parle du royaume à venir, pour lui c'est clair qu'il y a un royaume à venir, il ne le cache pas, il y a une perspective de la pleine manifestation du règne de Dieu à venir. Donc c'est la dimension apocalyptique. Mais Jésus a aussi une dimension éthique dans son enseignement sur le royaume, en nous disant par exemple que ce n'est pas très facile de gérer les richesses, puisque c'est peut-être plus facile à un chameau d'entrer par une petite porte. La porte de l'aiguille, c'est la porte qui est à côté de la porte principale dans la muraille. Mais il fallait lier les chameaux parce que c'était tout petit. C'est comme l'entrée de l'église de Bethléem. Vous savez, l'entrée de l'église de Bethléem, elle est la vieille église antique de Bethléem, construite par Hélène. Elle n'est pas plus haute que ça. Et vous savez pourquoi ? Eh bien, parce qu'on ne voulait pas que ces messieurs, les chevaliers, entrent à cheval dans l'église. Et même les chevaliers, la noblesse française qui régnait à Jérusalem ou à Bethléem, devait descendre du cheval pour entrer dans l'église. Je trouve ça magnifique comme symbole. Ceux qui étaient à Bethléem avec moi s'en souviendront. Donc voilà, il y a une dimension éthique, il y a une dimension eschatologique dans l'enseignement de Jésus, mais Jésus apporte une troisième dimension et il est le seul à l'apporter. Ce qui est tout à fait remarquable. À quoi ressemble le royaume de Dieu ? Luc 13. Il est semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent ses branches. À quoi comparerais-je le royaume de Dieu ? Enchaîne Jésus. Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans trois mesures de farine pour faire lever toute la pâte. C'est bouleversant. C'est tellement différent des deux premières dimensions. C'est bouleversant. Et c'est la vie même de Jésus. En fait, le royaume de Dieu a fait irruption sur terre par un petit bébé qui est né dans une crèche. Une naissance impensable, improbable, impossible, d'une femme vierge, eh bien oui, c'est le royaume de Dieu qui commence. C'est que justement, il se plaît à Dieu, il plaît à Dieu d'agir incognito. Il plaît à Dieu d'avancer son œuvre d'une manière discrète, qu'elle passe si souvent à inaperçue. C'est tellement important. La question d'ailleurs réapparaît lorsque les pharisiens ont interrogé Jésus pour lui dire « Mais quand viendra le royaume de Dieu ?» Et Jésus y répond de manière tellement belle « Mais non, le royaume de Dieu ne va pas venir, ni d'une manière ni d'une autre. Il ne va pas venir de manière qu'on puisse l'observer. On ne le dira pas, regardez, il est ici ou il est là. On ne peut pas l'observer. » Alors vous imaginez la réaction des pharisiens qui n'y comprennent rien, ou bien au contraire qui se disent « Oui, voilà, encore une baliverne de la part de ce prophète de Nazareth. » Et Jésus continue en disant « Le règne de Dieu est au milieu de vous. » Il est là, le règne de Dieu. Il est au milieu de vous. Et Jésus est plus précis en disant « Le règne de Dieu est dans les persécutés à cause de la justice. » Si vous êtes persécuté à cause de la justice, eh bien vous êtes proche du royaume de Dieu. Le règne de Dieu est dans ceux qui sont les assoiffés de l'esprit. Heureux êtes-vous si vous êtes assoiffés de l'esprit, car le royaume de Dieu est à vous. Donc, Jésus nous donne là une troisième définition, et c'est vrai qu'il n'y a que lui qui pouvait dire ça. Si Jean, le visionnaire de l'Apocalypse, ou bien l'apôtre Paul l'avait dit, on aurait dit « Oui, tu es un petit peu audacieux. » Seul Jésus a vraiment pu dire « Mais le royaume, il est là. Il est au cœur. Le royaume est là partout où nous trouvons une attitude empreinte de noblesse, d'amour, d'ouverture, de respect et d'attention à cette transcendance divine. » Voilà, je résume. Donc, que ton règne devienne, c'est à la fois une prière, à la fois un engagement, et là, je vais pouvoir rajouter quelque chose, à la fois un appel au discernement. Vous le rajoutez sur votre résumé. À la fois un appel au discernement. C'est vraiment la prière d'un peuple qui aspire à une pleine manifestation du salut, mais c'est l'engagement de ceux qui y croient et qui savent que ça va impliquer leur vie. Et que désormais, s'ils veulent vraiment goûter au royaume, il s'agira de vivre dans la joie, dans la paix, dans la justice, pour pouvoir être digne d'avoir le passeport du royaume. Lorsque ça dérape, j'aimerais bien ne pas parler de dérapage, mais voilà, parfois il faut en parler. Je vous lis, 1 Corinthiens 4, « Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous vous avez commencé à régner. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas. » Moi non plus. Et puis, Paul continue. Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Qu'est-ce qui se passe? Alors Paul s'adresse à l'église de Corinthe, l'église qu'il a fondée et qu'il connaît extrêmement bien, qu'il aime d'ailleurs énormément, parce qu'il en a fait des voyages pour visiter Corinthe. Et Paul repère que dans cette église, très rapidement, il y a eu des dérapages. Il reçoit des nouvelles inquiétantes au sujet des chrétiens de Corinthe. On lui parle de conflits entre des clans, entre des opinions. Il y a ceux de Cephas, ceux de l'Apollos, il y a ceux, enfin, et puis ceux de Jésus-Christ, bien sûr. Il y a des jalousies, il y a des discriminations, il y a du mépris à son propre égard. Les gens en viennent à mépriser Paul. Paul dit « Ma parole vous paraît méprisable. » Alors Paul doit corriger ces attitudes qui paraissent incompatibles avec l'Évangile. Et Paul, ce génie, l'apôtre Paul, arrive à repérer, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer chez les Corinthiens pour qu'ils en arrivent à se comporter si mal? Et alors le génie de l'apôtre Paul, c'est de n'avoir pas fait de ces injonctions de nouveau la morale, voyez, comportez-vous bien, soyez gentils, arrêtez de faire les méchants, soyez des bons, des gentils garçons. Non. Paul a repéré ce qui se passait chez les Corinthiens. Et en fait, ce qu'il a repéré, ce qui se passe chez les Corinthiens, c'est absolument universel. Et ça se passe chez nous, ça se passe chez moi, ça se passe dans nos églises. Et là, Paul fait le parallèle de ce que Jésus a si souvent dit au sujet des pharisiens. Qu'est-ce qui se passe chez vous pour que vous en soyez arrivé à si mal vous comporter, puis que finalement vous n'en tirez pas, vous ne cherchez pas du tout à corriger la chose? Eh bien, simplement, vous avez développé, dit-il aux Corinthiens, un sentiment de supériorité. Vous avez développé le sentiment d'avoir tout compris. Vous avez développé le sentiment d'être arrivé. Je relis, j'invente rien. Déjà, vous êtes rassasié. Déjà, vous êtes riche. Sans nous, vous avez commencé à régner. Puis il dit, mais oui, puissiez-vous régner avec nous? Paul ironise, là. Il sait bien que parfois, par l'ironie, parfois. Mais là, on arrive à faire vibrer des sentiments. Donc, les Corinthiens, avec toutes les grâces qui leur avaient été données, avec les charismes qu'ils pratiquaient d'une manière abondante, avec le rayonnement de leur église, avec toute la dimension sociale qu'ils avaient développée, le souci des pauvres et d'autres, eh bien, les Corinthiens ont développé un sentiment de propre justice et de supériorité. Et ce sentiment, il nous contamine tous. C'est cette idée de faire partie de la meilleure des églises, de nous distinguer de toutes les autres églises parce qu'elles ont tellement de défauts, de pratiquer tel et tel charisme qui est la preuve que Dieu habite en moi. Déjà, vous avez commencé à régner. Et pourquoi ce sentiment? Mais de nouveau, ce n'est pas immoral. C'est de nouveau une question théologique et non pas une question de morale. C'est ce que Paul développe longuement aux Galates. C'est ce besoin des êtres humains de se donner un signe concret de la grâce, de s'attribuer un signe qu'ils sont du bon côté, qu'ils sont ceux que Dieu approuve. Et alors, il rajoute à l'exigence de la grâce une observation sur une pratique qu'ils estiment être une pratique vertueuse qui fera qu'ils sont bien vus d'une manière bienveillante de la part de Dieu. Et là, alors, puisque je parle des Galates, Paul dit, tout cela risque de vous faire perdre même Jésus-Christ, perdre même la foi, la grâce, parce que quiconque ajoute à la grâce quelque chose perd le sens originel de la grâce. Donc ça, c'est un des dérapages. Lorsqu'on parle du royaume, il faut savoir que le royaume, ce n'est pas notre prérogative de régner d'une manière ou d'une autre. Un autre dérapage qui est un peu lié à celui qui précède, et que j'ai observé encore en parlant avec un ami dimanche dernier, c'est cette attitude qui est tellement difficile à permettre d'être dépassé. C'est cette attitude d'être tellement vertueux, de se dire que j'ai tellement bien compris les choses que moi, je ne peux plus maintenant me relier à quelque église qu'elle soit, parce que toutes les églises sont tellement imparfaites que je ne peux plus m'y associer. Alors c'est vrai que la chrétienté est bien imparfaite. C'est vrai que toutes les églises qui la constituent ont leurs faiblesses et leurs défauts, à l'image de nos propres faiblesses et nos propres défauts. Mais en fait, si nous pensons pouvoir obtenir le trésor sans acheter le champ, on va perdre et le champ et le trésor. C'est Alphonse Maillot qui le dit dans sa méditation de ses paraboles du royaume. C'est vrai que, dit Alphonse Maillot, certains chrétiens qui dénoncent les défauts de l'Église et qui voudraient posséder le trésor en récusant le champ eh bien, ceux-là vont perdre et l'un et l'autre. Nous ne pouvons finalement accepter notre identité de chrétien que si nous accueillons les imperfections du champ dans lequel le trésor de l'Église est inscrit. Il faut, le temps passe, il faut aller de l'avant et revenir alors à la deuxième expression, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Avez-vous entendu parler du nom, N-O-M ? Le nom est une grande aspiration universelle. Ça s'appelle le nouvel ordre mondial. Ça a été inspiré en particulier par un certain nombre de présidents américains et c'était repris par bien d'autres dans le monde entier. Je crois que tout le monde a à cœur, désire que ça change. Alors le changement, c'est vraiment le rêve que tout le monde partage. D'où l'idée d'établir un nouvel ordre économique mondial, un ordre empreint de justice qui permettra la paix et la stabilité, qui évitera les conflits et les guerres et toutes choses. Alors, c'est vrai que c'est beau comme idéal, c'est très très beau, mais ça paraît tellement hors de portée du cœur humain. Parce que, en fait, moi je ne connais qu'une seule révolution qui est capable d'instaurer la justice, la paix, c'est celle du royaume de Dieu. C'est la révolution du royaume qui, la seule, nous permet vraiment de vivre la justice, la paix. Et alors, notre prière, elle se fait relais de cette aspiration universelle. Lorsque nous prions que ta volonté soit faite, notre prière atteint quasiment une dimension universelle, parce que ce n'est pas simplement la prière que nous formulons dans notre coin, mais c'est la prière qui est susurrée, murmurée ou dite parfois à haute voix de tous les habitants de la terre. Souhaiter que la terre et les habitants connaissent la sagesse de Dieu, je crois que c'est le but le plus élevé du Notre Père. Mais à un titre plus personnel, plus individuel, cette demande que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel nous invite à accueillir l'œuvre de Dieu en toutes circonstances. Que ta volonté, Seigneur, soit faite dans ma vie et que ta volonté prime sur n'importe quelle autre volonté. Et alors, et ce sera mon dernier mot, cette prière devient une prière de consentement. J'avais déjà, mais il y a très longtemps, prêché sur cet admirable type de prière, la prière de consentement. Luc 1, 38. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Vous savez qui prononce cette admirable phrase? C'est Marie. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et puis dans Luc 22, c'est Jésus lui-même qui dit « Père, non pas ma volonté, mais la tienne. » Et là encore, ça s'inscrit vraiment dans cette prière que Jésus nous invite à prononcer, parce que ça nous concerne au plus profond de nous-mêmes. S'il y a une chose que les humains aiment bien dans la vie, eh bien, c'est de pouvoir faire des choix, de pouvoir décider de leur présent, de leur avenir, de pouvoir se fixer des objectifs et les réaliser. Or, vous le savez bien, la vie humaine n'est pas faite que de réussites et de choses agréables. Elle est fragile, elle est marquée de déceptions, de ruptures, de maladies, de deuils, d'échecs, de problèmes de santé, de difficultés d'église ou de difficultés professionnelles dont nous sommes souvent les victimes. Alors, que faire ? Que faire dans des situations de fracture et de déception? Faut-il nous révolter? Faut-il rager d'une colère rentrée? Faut-il vivre un déni? Mais non, tout va bien, pas de problème, tout cela n'est qu'un malentendu. Ou alors, parfois, on bascule dans la dépression. Non, Je crois que là encore, Jésus nous exhorte à entrer dans la dynamique de la grâce. Parce que la dynamique de la grâce nous permet d'accepter les limites de notre condition humaine, d'accueillir nos deuils, de renoncer à nos rêves de toute puissance. Que ta volonté me soit faite, à moi le premier, comme au ciel. Dans cette dynamique de la grâce, nous pouvons laisser Dieu être Dieu en nous, consentir, accepter les situations douloureuses qui soient précisément le lieu où la grâce de Dieu se manifeste. Et alors, la prière de consentement va permettre de rejoindre la dimension d'éternité que Dieu a déposée en nous. Cette prière de consentement nous permet de rejoindre, là au cœur de nous-mêmes, la dimension d'éternité que Dieu a déposée en nous. La prière de consentement, elle est communion avec le Dieu crucifié, Jésus-Christ. Ce Dieu crucifié dont la volonté a été de faire celle de son Père. La prière de consentement, c'est parfois le silence. Non pas un silence de résignation, un silence germinateur qui laisse germer la vie que Dieu veut faire éclore en nous. La prière de consentement qui nous apprend à aimer davantage Dieu pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il nous donne. Voilà, chers amis, j'ai esquissé quelques pistes. Je vous invite à les creuser chez vous. J'ai proposé quelques questions pour poursuivre la réflexion, vous les trouverez sur la feuille. Mais ce qui me touche, et ce sera vraiment le mot de la fin, c'est que cette prière fait de nous des partenaires, Dieu fait de nous des partenaires dans la construction de son royaume, il nous associe à son œuvre, et bien qu'il nous en fasse la grâce de pouvoir le vivre au quotidien. Je vous invite à prier. Seigneur, merci du privilège de visiter ce qui est invisible à nos yeux. Oui, nos yeux, même s'ils ont été refaits à neuf, nos yeux nous empêchent de voir l'invisible. Et l'invisible, c'est la seule vérité du monde, de l'histoire avec un grand H. L'invisible, c'est la seule vérité de ma vie, de mon histoire avec un petit H. Et ce matin, tu nous encourages encore à enraciner notre expérience, notre vie, notre existence dans l'invisible, afin d'en tirer la sève, afin d'en tirer la nourriture, afin d'en tirer la force qui nous permet de rester debout. Nous ne pouvons rester debout que par ta grâce, que par ta présence, que parce que cette prière devient, par le Saint-Esprit, une puissance de vie dans notre quotidien. Merci Seigneur. Amen.